Nous sommes en sandwich entre deux beaux matchs de la Coupe du Monde. Donc je vous propose de commencer à l'heure. Le premier s'est plutôt bien passé. Mais Belgique-Brésil, ça doit être un beau match aussi. Donc on va essayer de tenir... Comment ? Oh. Non, ça c'est après. On va essayer de tenir le calendrier. Je vais commencer comme d'habitude par l'appel. Monsieur Olivier Bonduel a donné pouvoir à monsieur Marc Lerouzic. Madame Marie-France Bagarre-Martin, ou Martin Bagarre est présente. Monsieur Marc Lerouzic est présent. Christine Lamandé, pouvoir à madame Desjardins. Monsieur Jean-Yves de Ripin, madame Janine Le Golvan, madame Françoise Le Pénec. M. Charles Bietri est absent. Mme Marie-Yvonne Belay, pouvoir à M. Chapelle. M. Philippe Audeau, pouvoir à M. Pascal Lejean. Mme Catherine Isoa. M. Patrick Lotodé. Mme Christine Desjardins. M. Michel Durand. Mme Morgane Petit, future secrétaire de séance. M. Gérard Marc-Albert. Mme Karine Ledeveat. M. Hervé Le Donnant, pouvoir à Olivier Lepic. Mme Monique Thomas est absente. Mme Armelle Moreau est absente. Le portable de Pascal Lejean est présent. Monsieur Jean-Luc Servet, voilà, Monsieur Jean-Luc Servet nous quittera en rayon d'un deuil familial après la présentation du bourg. Madame Nadine Rouet, présent. Monsieur Pascal Lejean,
oui, présent.
Il était avec son téléphone qui était présent. Monsieur Loïc Houdois,
présent.
Madame Sylvie Robineau, présent. Monsieur Paul Chapelle,
présent.
Et le maire, Olivier Le Pic, qui est présent. Nous avons donc largement le quorum pour délibérer. Madame Morgane Petit, je vous désigne de manière totalement totalitaire, secrétaire de séance, vous l'acceptez ? Parfait. On commence donc par l'ordre du jour de ce conseil municipal et donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2018. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal ? Pas de questions ? C'est bon pour Belgique-Brésil. Il est donc adopté à l'unanimité. Le compte rendu des décisions du maire que vous trouvez dans le rapport, elles sont numérotées de 43 à 56, avec une décision 48 qui a été annulée. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ? Madame Le Golvan, le micro.
La 45, je voulais savoir quelle était la durée de vie d'une caméra, ou des caméras, puisqu'elles sont installées pratiquement.
Monsieur Marc.
Cinq ans, normalement. La moyenne, c'est 5 ans.
Si quelqu'un dormait,
personne. Climat iodé comme le nôtre ?
C'est pour ça qu'on a mis cela, parce qu'ils nous ont garanti 5 ans.
D'accord, ok.
Sauf pas d'importance.
Madame Baga ?
Pour la décision 49, est-ce qu'on pourrait avoir quelques infos plus précises sur cet événement autour d'une thématique patrimonial, ce qui concernerait le partenariat avec l'écomusée de Rennes.
En fait, c'est juste le... C'est juste le... une partie de l'exposition en fait, du musée qui va être... enfin, qui est modifiée et, en fait, pour traiter des landes de Bretagne, puisqu'il y a différents musées qui sont partenaires autour de cette thématique, et ça permet au musée de préhistoire d'expliquer plus précisément la naissance de l'agriculture, la sédentarisation, au travers de cette thématique-là. Non, en fait, c'est un partenariat entre différents musées, et chaque musée utilise une partie de son patrimoine pour mettre en valeur cette thématique-là. Donc c'est juste qu'on s'inscrit dans une démarche portée par différents acteurs.
D'autres questions, Monsieur Derripa ?
Oui. Sur la 51, une simple question de forme. Est-ce qu'on pourrait ne pas mélanger le TTC et le hors-taxe ? Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose.
D'accord.
Et je passe direct à la 55, sur la maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la cascade de l'Office de tourisme du Bourg. Je trouvais 14 664 euros de maîtrise d'œuvre. Ça nous fait, si on peint en pourcentage de la réalisation du chantier, c'est énorme, non ? Parce que je ne sais pas combien ça coûte. Et il suffit simplement de dégager la casque. Pardon ?
Dégager et refaire.
Uniquement les deux appentis devant
derrière. Monsieur Servet ?
Alors effectivement, pour l'instant, premièrement, pour l'instant, le montant des travaux de réaménagement bâtiment office n'est pas défini, puisque le projet n'est pas finalisé et validé au niveau de la casquette de l'office, donc on ne connaît pas le montant. Et effectivement, il y a l'approche pourcentage en frais de maîtrise d'œuvre. C'est une approche qui a ses limites dans les travaux particuliers de petite ampleur, où la prestation de maîtrise d'œuvre n'est pas forcément tout à fait en proportionnalité avec les travaux. Donc effectivement, ça peut paraître conséquent, mais le travail n'est pas simple. Les allers-retours de réflexion, et notamment avec les ABF, sont quand même nombreux. Donc ce montant s'explique par ces éléments-là. Oui. Mais on sera vraisemblablement, on peut imaginer autour de 12%. Mais pour l'instant, ce n'est pas défini, le montant des travaux n'étant pas défini lui-même.
Donc 12%, ça ferait quand même un chantier à 120 000 euros ?
Ça peut. Aujourd'hui, ce n'est pas finalisé, comme je vous le dis. N'oublions pas aussi qu'au sein de la maîtrise d'œuvre, il y a un bureau d'études techniques, puisqu'on a besoin d'avoir un diagnostic du bâtiment en termes de structure, d'une part, et d'autre part, d'avoir une proposition architecturale qui intègre le critère structure pour être réalisable.
Oui. Concernant la 54, donc, vous nous dites qu'il y a une liaison donc, faite par la Carnose et puis la Carnavette. Par contre, au niveau des campings qui sont desservis, quels sont-ils ?
Monsieur Lejean ?
Alors, c'est en général presque tous les campings, mais ce n'est pas les campings qui sont desservis, c'est les endroits proches des campings qui sont desservis. Alors, même si effectivement il y a un arrêt qui peut s'appeler entre guillemets la grande métairie. Après, on a Kermario qui récupère Kermo. On va jusqu'au ce que j'appellerais le Rosnual, mais ce n'est pas spécialement que le camping de Rosnual, parce que ça sert aussi pour le moustoir, et ainsi de suite. Mais c'est comme les autres années.
Alors, qui participe ? Parce que je sais qu'il y avait un travail fait là-dessus, c'est-à-dire de faire participer et les campings. Pourquoi pas le CMN enfin...
Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui participe. On est reparti sur le même cahier des charges que l'année dernière. Et on travaille effectivement cette année. La nouveauté, c'est qu'on a un lien avec la Trinité-sur-Mer pour effectivement, après, essayer de trouver une mutualisation de l'ensemble des coûts et des partenariats derrière. Mais pour cette année, c'était effectivement trop juste.
D'autres questions sur les décisions du maire ? Monsieur Lerouzic ? Alors, monsieur Durand.
Oui, c'est une DP qui a été autorisée pour positionner des fenêtres de toit, des velus côté sud et côté nord, et qui a été refusée par l'ABF.
Oui. Ah, madame, ouais, je ne ferai plus. Je vous propose donc de passer au rapport numéro 4, aménagement de la liaison Boursaline et secteur Nord-Église, qui ont donc fait l'objet de présentations déjà dans les commissions, ainsi qu'une réunion publique qui a eu lieu la semaine dernière. Et on va avoir une présentation du cabinet sur ces deux dossiers qui ont donc vocation à être réalisés au cours de l'hiver prochain.
Bonsoir, donc Nicolas Texier, DCI Environnement, donc bureau d'études spécialisé en aménagement urbain, et je suis moi-même paysagiste. Donc, je vais vous présenter l'aménagement du centre-bourg autour de l'église et également l'aménagement de l'avenue de la Poste sur une phase importante, la phase avant-projet, puisqu'elle est liée également au dépôt du permis d'aménager, puisque dans un site monument historique. Donc c'est une phase importante. Je vais me permettre de rester ici, aller devant, non pas par paresse, mais parce que c'est plus facile pour manipuler les différents fichiers que je vais pouvoir vous présenter. Donc, je représente pas le périmètre de l'étude. Hein, donc, très rapidement, donc bien sûr le centre-bourg avec les abords de l'office du tourisme, et puis cette liaison jusqu'au rond-point des Salines avec l'avenue de la Poste. Donc, on est sur un aménagement cohérent, une vision globale, notamment des mobilités. Donc, on va débuter sur l'avenue de la Poste, donc un projet très linéaire, donc avec notamment cet objectif de desservir une liaison piéton-cycle, et notamment une liaison cycle en double sens de circulation sur la partie est de ce côté-là, au détriment de la chaussée. On rétrécit la chaussée à 5,30 m pour pouvoir donner de la mobilité à la fois cyclable et piétonne. Donc là, on est au nord du projet, donc là, on va vers l'église. Donc sur la partie est, vous avez un piéton cycle en double flux. Sur la partie ouest, du piétonnier et puis du stationnement longitudinal. Il y a également des jeux de plateau qui jalonnent le projet pour faire ralentir les véhicules. On conserve le petit parking de la fontaine et puis un effet de seuil au niveau de la fontaine pour la mettre en valeur. Sur la partie centrale de la rue, donc là, le profil de la chaussée s'élargit. Donc, on peut à la fois proposer un piétonnier de ce côté-là et un piétonnier sur la partie ouest. Et toujours, notre circulation double sens dédiée aux cyclistes. Avec une mise en valeur aussi de l'entrée du parc à la faveur d'un petit plateau également ici. Là, on propose un effet de chicane pour ralentir les véhicules et puis inverser la position du stationnement, puisque là, en partie sud, en bas de la rue, le stationnement se retrouve en partie est. Ça permet de ventiler les places de stationnement à la fois pour les riverains situés d'un côté et de l'autre de la rue. Donc globalement, on garde une capacité de stationnement assez proche de celle qui existe, tout en jalonnant le projet d'un certain nombre d'arbres qui contribuent à l'aménagement global, à l'esthétique globale, et puis au ralentissement des véhicules également, avec des effets de parois. Voilà, des petits profils peut-être plus faciles à lire. Donc là, on est dans la partie nord. Donc on retrouve à l'est du projet le cyclable en double distance de circulation, la chaussée réduite, le stationnement et le piétonnier. Partie centrale avec du piétonnier des deux côtés de la chaussée, et toujours la piste cyclable de 3 mètres, donc très confortable pour aller jusqu'à la plage. Et le profil nous permet aussi d'installer une petite bande de sécurité, une petite bande plantée qui permet d'aménager, de proposer ces piétonniers et cette piste cyclable en site propre. Et enfin, partie sud, la seule différence, c'est le stationnement qui passe sur la partie est de la rue, de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a déjà des observations concernant l'avenue de la Poste avant de passer au centre-bourg et aux abords de l'église.
Ça mesure combien, en fait, tout ?
Alors, l'avenue de la Poste, c'est 600 mètres.
Vous parlez de chaussée réduite, de poids lourds peuvent se croiser.
Non, l'objectif justement, c'est que cette voie qui sera déclassée, qui ne sera plus une route départementale, soit dédiée aux véhicules légers.
Il y a des commerces dans ce secteur. Pour les livraisons, ça ne va pas poser problème.
Je pense que les gros camions qui descendront du bourg ne peuvent pas passer dans le bourg. Déjà, ils sont interdits à plus de 3,5 tonnes. Donc éventuellement, c'est ceux qui arriveront à la Poste par l'avenue des Salines et qui éventuellement passeront par le RER pour aller de l'autre côté, parce que sinon, il n'y a pas énormément, mis à part la Poste, de gros commerçants par là. Ça a été vu avec la sécurité routière et qui nous ont dit Il peut y avoir un camion de temps en temps, les ordures ménagères, mais après, bon, c'est pas non plus une voie circulante pour aller à la plage, puisqu'on a, l'avenue de l'avenue des Salines et de l'autre côté, le Reich. Donc, voilà.
Je me permets de passer à la partie centrale. Au nord de l'église et donc cet aménagement qui se déploie jusqu'à au sud du parking de la mairie. Donc vous retrouvez l'office du tourisme et donc une composition globale qui est possible grâce à l'effacement de cette énorme casquette qui fait 3 mètres de large autour de l'office du tourisme aujourd'hui. Donc toutes les lignes de composition que vous voyez ici sont possibles par le fait de la suppression de cette fameuse casquette. Donc l'objectif, c'est à la fois de trouver des lignes de composition qui s'orientent bien sûr sur le perron de l'église, sur cette porte la plus utilisée, et de rapprocher donc ces deux voies latérales, est et ouest, de l'office du tourisme, puisque la casquette disparaît. Donc on donne beaucoup plus de place à la fois pour les piétonniers et aux abords des commerces. Donc c'est vraiment l'objectif et le point fort de cette composition, parce que effectivement aujourd'hui la voie elle est beaucoup plus, je dirais qu'elle est à peu près sur cette emprise là, hein, et c'est très resserré. Donc c'est à la fois un avantage fonctionnel et on dégage vraiment des vues nord-sud très agréables, notamment quand on est sur le point haut, sur la place de l'église. Donc le gros changement concerne notamment la partie nord, où on s'est employé à retravailler le nivellement, puisqu'aujourd'hui vous avez des très fortes pentes là au niveau du parking, qui sont pas satisfaisants du point de vue des usages, pas satisfaisants du point de vue de l'esthétique. Donc on retravaille en fait un effet de place à plat, à la faveur d'un muret ici, et puis d'escaliers qui se retournent ici et également ici, pour créer une vraie place où plusieurs animations pourront avoir lieu, et tout en conservant des vraies perméabilités visuelles est-ouest grâce aux escaliers, et puis à cette faible hauteur de muret, ce tout petit soutènement qui assure simplement la planéité entre les deux espaces. Sur la partie sud, je dirais qu'on est beaucoup plus proche de ce que vous pouvez trouver, ce qui existe aujourd'hui. Toujours avec bien plus de places et d'espaces publics dédiés au commerce, donc qui permettront la promenade et au commerce de profiter de ces espaces-là. Bien sûr, un petit peu au détriment de la partie centrale, mais de toute façon, comme vous pouvez le voir, et les couleurs l'expriment bien, on est vraiment sur un traitement unitaire des revêtements de sol, et c'est aussi le souhait de l'ABF de proposer quelque chose de très uniforme, et on est bien sur une place qui est traversée par des flux de circulation, et pas l'inverse. Donc on est sur quelque chose de très plat, de très lisse, je dirais. La rue des Tumulus, elle est traitée de manière qualitative également, on pourra y revenir, mais avec des bétons érodés que vous pouvez déjà trouver ici au niveau de l'église. Donc on assure une continuité, une unité de l'espace public jusqu'au parking ici. La petite venelle de la rue du Puy, de l'Enfer, pardon, est elle aussi réaménagée avec des matériaux plus qualitatifs. On retrouve ce fameux béton érodé. Et puis un jeu de petits emmarchements, on peut même parler plutôt de gradines, et puis une rampe parallèle, ce qui permet plusieurs usages, les vélos, même si le pourcentage de pente est élevé, et puis notamment les petits caddies, vous savez, pour le marché, qui pourront être facilement traînés par les gens tout en marchant sur les gradines. La rue du Puy, quant à elle, est simplement remise en état, mais ne fait pas de l'objet d'aménagement spécifique. Donc on a une répartition du stationnement assez équilibrée. Bien sûr, on perd quelques places, mais bon, c'est à la faveur de la qualité de l'espace public et de la polyvalence de ces espaces. Mais ils sont répartis de manière à pouvoir desservir tous les commerces tout autour de la place. Et enfin, le petit parking, donc qui est également complètement repris dans cette partie ouest. Aujourd'hui, vous avez la petite rampe d'accès pour les véhicules qui se trouve ici. Là, on réaménage sous forme d'une large rampe jusqu'ici. Ça ouvre le parking vers la Venelle de l'Enfer, avec une continuité logique entre les deux. Et on offre quelques places de stationnement supplémentaires qui complètent les quelques places éventuellement perdues dans cette partie centrale. Voilà, je crois que dans ça, les grandes lignes ont été évoquées. Simplement aussi, très important, la qualité des matériaux dans la partie sud de la place, donc avec des échanges et de nombreux échanges avec l'architecte des bâtiments de France, et qui a priori conduirait à faire le choix d'un pavage de format 14-20, d'un pavage granit. Pour souligner l'aspect patrimonial du site et puis trouver encore une fois une vraie unité de cette partie sud de la place. Sur les compositions, je ne sais pas s'il y a des observations. Il y a une coupe qui peut être présentée pour de comprendre. Donc là, vous trouvez l'Office du tourisme. Là, on est sur la partie nord qui mène vers la mairie. Donc, on voit donc en tireté bleu le profil en long existant, avec un certain nombre de marches qui existent de part et d'autre de l'Office du tourisme. Donc, on efface toutes ces marches. Donc, on contribue à améliorer l'accessibilité PMR. Effectivement, on crée une vraie place au nord, donc avec la création de quelques marches à ce niveau-là. Mais c'est pour trouver plus de confort pour tous, y compris pour les PMR sur cette partie-là, tout en sachant que le plan global de composition s'attache à assurer toutes les continuités pour les personnes à mobilité réduite, nord-sud et est-ouest, par ailleurs. Quelques images, quelques croquis d'ambiance. Donc là, on se trouve vous reconnaissez dans la partie nord, partie sud, pardon, donc l'église et l'Office du tourisme, avec ces simples casquettes sur la partie nord et ici sur la partie sud. Là, on se retrouve de l'autre côté, donc au nord. Vous devinez l'Office du tourisme ici. Donc là, on était sur plusieurs solutions en termes de revêtement de sol, mais a priori, on s'achemine plutôt sur cette solution, donc avec un béton érodé au nord. Et puis, vous devinez ici le pavage en partie sud. Là, on a la Venelle de l'Enfer dans le dos, et donc on regarde vers l'Office du tourisme, avec cet espace très convivial, très dégagé devant le nord de l'Office du tourisme, relativement large, 6-7 mètres de mémoire, qui offre un vrai espace de vie, qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite par cette part depuis cet endroit-là, et qui pourront accueillir, on imagine, quelques animations, grâce à ces jeux de marche qui proposent des sortes de gradins, en fait. La partie nord, toujours de la place, et on devine le parking de la mairie ici. Et là, on retrouve les jeux de marche et puis les quelques arbres qui vont ponctuer l'espace public pour apporter de l'ombre et puis pour animer un peu cet espace. Malheureusement, Jean-Baptiste Boyer, hein, l'architecte de l'équipe, n'a pas pu venir. Hein, il y a eu un empêchement. Donc là, c'était une partie qui était plutôt dédiée donc au traitement de la cascade. Je vais faire très rapide puisque c'est vraiment lui qui maîtrise cet aspect-là. Simplement, cette planche montrait l'état de la cascade aujourd'hui en rouge autour de l'Office du tourisme. Et puis, le projet, avec ces, simplement ces deux parties. Donc une partie plus restreinte au nord et puis une partie bien plus généreuse au sud qui permettront d'offrir de l'ombre notamment période estivale. Et au nord, ça reste un abri intéressant, d'autant qu'on a des espaces de, d'affichage, de présentation de l'Office du tourisme qui pourront être facilement consultables tout à fait à l'abri. Voilà concernant le... Vous souhaitiez... Voilà, les façades, effectivement, que je n'ai pas présentées. Donc, la partie sud, bien plus importante, 3 mètres 40, et puis une partie plus restreinte de 2 mètres et quelques ici. Là, donc on est façade est, donc on a la Venelle de l'Enfer dans le dos, et on voit toujours ces jeux de casquettes, avec la rampe latérale, partie est, qui permet de, aux personnes à mobilité réduite d'aller du nord au sud de l'Office du tourisme, sachant qu'à l'intérieur, il y a des marches, donc on ne pouvait pas compter sur cette simple accès sud pour desservir les personnes à mobilité réduite. Donc cette rampe permet cette fluidité et de pouvoir profiter des animations qui seront proposées en partie nord. Donc sur la façade nord, donc on a la mairie dans le dos et on aperçoit à peine cette casquette. C'est l'objectif qu'elle soit le plus discrète possible, contrairement à ce que vous avez aujourd'hui qui est très massif, qui écrase un peu la place, qui écrase l'Office du tourisme. Donc ce bandeau très léger proposé par donc l'architecte Jean-Baptiste Boyer qui laisse vraiment des perméabilités visuelles qui restent vraiment très légères. Donc là on est sur la façade sud, là aussi on la devine à peine, on a également quelques appuis, quelques poteaux mais qui sont très discrets par rapport à ce que vous avez aujourd'hui qui est en granit, qui est très, très massif. Là le travail probablement serait plutôt réalisé sur avec de l'acier, donc on pourra avoir beaucoup plus de finesse.
Je voudrais juste ajouter pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, la présentation là, des deux, trois dernières projections concernant l'Office de tourisme sont au stade des pré-études. Ça n'est pas dans le cadre de la délibération, ça n'est pas figé, ça n'est pas validé par l'ABF, et c'est vraiment pour présenter, je dirais, l'ambiance qui sera très probablement celle-ci, et pour qu'il y ait une bonne compréhension d'ensemble du projet du réaménagement Beau. Mais la partie spécifique au vent de l'Office de tourisme, M. Bouillet nous rejoint à l'instant même, la partie spécifiquement Office de tourisme n'est pas dans le cadre de la délibération de ce soir.
Ouais, Monsieur Servet, ça veut dire que le coût de ce dont on vient de parler, là, les deux avancées, les deux casquettes, c'est pas compris dans le prix, dans ce qu'on va voter aujourd'hui?
Non.
Non, c'est à rajouter.
Oui, c'est un autre projet.
Je vais passer d'ailleurs à cet aspect, l'aspect financier, donc avec le récapitulatif donc de la solution retenue. Donc je vais repasser. Hop. Donc vous retrouvez donc le schéma qui a priori pourrait être retenu, et puis la ventilation des coûts par secteur. Donc sur un coût global de travaux de 1,7 million. Avec une concentration effectivement du budget sur l'avenue de la Poste, sur les 600 mètres linéaires, les fameux 600 mètres linéaires. Donc on est vraiment sur des surfaces bien plus importantes. Même si l'aménagement, les matériaux sont bien moins qualitatifs, bien sûr. Mais l'espace est beaucoup plus important.
Monsieur Lourzic.
Oui, je voulais juste poser une question concernant la forme de la toiture de l'Office du tourisme sans sa casquette. Est-ce que cette forme pyramidale sera acceptée par les bâtiments de France proches de l'église, puisque la forme bretonne, c'est plutôt une forme rectangulaire plutôt que pyramidale?
Alors, Concernant l'avis des bâtiments de France sur, sur le bâtiment office de tourisme, aujourd'hui, même si ce projet à ce stade-là n'est pas validé, ce qui est validé, c'est en tout cas le principe général de la suppression des auvents actuels et d'avoir de les remplacer par une casquette nord et une casquette sud la plus légère possible. Donc si le dessin n'est pas validé, en tout cas, le principe est quand même vu avec l'architecte des bâtiments de France. Je ne suis pas sûr que le toit de l'auvent de l'office de tourisme soit typiquement breton, mais voilà. Alors l'architecte des bâtiments de France verrait bien, mais à beaucoup plus long terme, un projet de refonte beaucoup plus important, voire de remplacement, comme on l'a évoqué en commission, de ce bâtiment-là, avec d'autres formes, d'autres dimensions. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, et on est plutôt sur ce principe-là, c'est-à-dire de remettre à nu le corps de bâtiment principal et de le réhabiller avec deux auvents très légers.
Non, mais enfin, pour finir, on peut avoir un coût nettement supérieur, énorme, au final.
À ce stade-là, non. Dans 20 ans, peut-être.
Oui, mais plus tard, s'il faut modifier la toiture, on risque d'avoir un coût supplémentaire.
Non, mais on n'en est pas là, parce que justement, ça n'est pas ça n'est pas l'objet dans le cadre de notre projet de réaménagement bourg aujourd'hui.
Des remarques, Madame Le Golvan ?
Juste une remarque par rapport au coût. C'est vrai que quand je vois les travaux qu'on a déjà payés, c'était en 2016-2017, on était à peu près à 200 000 euros. 220 000 euros, ben, précisément. Là, tout à l'heure, on était en train de se dire que c'était 240 000 euros à peu près, enfin, les futurs... Non, 120 000 euros. D'accord. Et puis là, les casquettes ne sont pas comprises non plus. Donc, c'est vrai que c'est... l'addition, c'est, on va être aussi cher que celui de l'office de tourisme de la plage, en travaux. Ben, 400 000, c'était... Tiens.
220 000 plus 120 000. Vous avez 220 000 de travaux intérieurs et vous avez un potentiel de 120 000 de travaux extérieurs. Les travaux extérieurs jouent sur les casquettes qui sont déjà aujourd'hui ne sont pas sont liées au bâtiment mais ne sont pas fixes au bâtiment. Donc il faut séparer les deux choses. Il y a d'un côté, on avait l'aménagement de l'office du tourisme pour l'office du tourisme, pour l'activité touristique. De l'autre côté, on a effectivement l'aménagement du centre-bourg. Et c'est à la demande aussi des ABF, parce que effectivement, et sur une contrainte sécuritaire technique, si Jean-Luc, tu sauras dire ça mieux que moi.
Non, mais effectivement, enfin, il faut comprendre que l'intervention sur les auvents périphériques de l'office sont liées, pas au bâtiment lui-même, ils sont bien liés au projet d'aménagement urbain, avec... je dirais, deux objectifs. Un objectif fonctionnel qui est de redonner de l'espace devant les commerces, donc de rapprocher les voies, donc d'enlever les auvents. Et puis sur un aspect, je dirais, de transparence et de visibilité patrimoniale entre la mairie et l'église, ou le bâtiment musée et l'église, et c'est-à-dire que de redonner, mais M. Bouillet qui est arrivé en parlera mieux que moi, de redonner un visuel et une transparence et une légèreté dans la place et une communication entre la partie nord et la partie sud de la place. Mais on peut peut-être effectivement laisser M. Bouillet en parler un instant.
Bonjour. Donc, en effet, ce premier travail n'est pas finalisé, mais il y a déjà eu plusieurs échanges avec l'ABF en particulier. Ce qui est sûr par rapport à cette forme atypique à quatre pans et sa position également atypique au milieu de la place, c'est la volonté de la part de l'ABF est de redonner une unité à la totalité de l'espace public autour de l'Office du tourisme et surtout entre la mairie, le musée et l'église, pour qu'il y ait un sens urbain à cette place et non pas deux placettes, voire deux parkings au nord et une place au sud. Donc ça, c'est vraiment une première intention. Et là-dessus, l'ABF a aucun doute sur le fait que la suppression de la casquette permettra des visibilités bien meilleures de l'église Saint-Cornélie. Et ça, c'est la priorité de l'ABF, c'est de mettre en valeur le bâtiment. Or, aujourd'hui, la casquette, en particulier ouest, réduit la largeur de la rue et empêche le déplacement de la voirie dans l'axe de l'entrée de l'église, si on reprend le plan, empêche l'élargissement des trottoirs et donc la vie urbaine le long des commerces et des terrasses, Donc là-dessus, sur le principe urbain d'enlever les casquettes, il n'y a vraiment aucun doute de la part de l'ABF. Et la volonté, après plusieurs esquisses, des nombreuses esquisses sur les différentes casquettes, est de travailler comme un outil de design le plus fin possible cette casquette pour venir surtout pas surcharger la place. La première des solutions qui a été évoquée, c'était de l'enlever simplement et de ne pas la remplacer. Néanmoins, on est en Bretagne, on a besoin de cet abri par rapport à la pluie et par rapport au soleil. Et donc, l'autre option aurait été de dire, eh ben, on construit un abri, un troisième lieu sur la place qui serve de folie, qui serve pour abriter des musiciens, qui serve pour pouvoir manger sa glace par un temps ensoleillé. Néanmoins, la configuration de la place ne permet pas tellement cet aménagement et aurait créé encore une incidence supplémentaire, une difficulté supplémentaire pour le trafic, pour les piétons, pour l'aménagement d'événements. D'où l'idée naturelle de retrouver ces deux abris au nord et au sud et vraiment de les travailler. Donc là, ce sont les images rendues pour l'avant-projet, donc la fin de l'esquisse. Le plus finement possible pour faire que cet abri disparaisse à l'échelle de la place, donc serve de fonction, mais ne l'emporte pas par rapport à l'architecture de la place, des bâtiments, des façades, qui aujourd'hui sont magnifiques et ne sont pas forcément visibles avec cet office aussi présent.
Oui, puisque vous venez de mettre en avant... la volonté de l'architecte des bâtiments de France de garder une unité entre le musée et l'église. Pourquoi est-ce que on ne fait pas le même revêtement de sol de l'église au musée, enfin, ou au moins à la place nord, alors là, au nord de l'office.
Oui. Là, encore, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce sujet. Et le cœur de place, ça reste la partie entre l'église et, en gros, l'office de tourisme. Et quand on regarde, si vous êtes un peu attentive à la composition urbaine des façades, quand vous passez, entre guillemets, la limite de l'office de tourisme, vous n'avez plus la même typologie de façade. Vous n'avez plus le même type de construction, la même époque de construction. Et le cœur de place, c'est bien celui qui est situé entre le cœur de ville, de bourg, et bien celui qui est situé entre l'église et à peu près l'office de tourisme. Ce qui fait que c'est ce cœur de place qui doit être marqué et sur lequel les ABF nous demandent un traitement pavé. On a évoqué différentes autres possibilités, dont notamment en commission. On a soumis ces idées à l'architecte des bâtiments de France. On a également soumis l'idée qui consisterait à dire on monte les pavés effectivement jusqu'à la limite nord de notre projet, sur la partie de la façade, sur la partie de l'ouest jusqu'au muret de décrochement et par contre éventuellement la voie est en béton érodé, ça n'a pas été accepté par l'architecte des bâtiments de France. Donc j'ai aujourd'hui des diverses solutions ou variantes envisagées. C'est cette solution aujourd'hui présentée devant vous qui requiert l'aval de l'architecte des bâtiments de France.
L'architecte des bâtiments de France n'est pas d'accord avec la solution pavage sur l'ensemble de la place ? Non. Parce que c'est quand même la solution qui a été préconisée par la commission. C'est celle aussi qui a été évoquée lors de la réunion publique. Et l'architecte des bâtiments de France n'est pas d'accord. Mais il a donné des raisons pour ce désaccord.
Je viens vous les exprimer.
Parce que la maison du marchand de journaux, elle n'est pas au-delà de l'office ? J'ai plus trop ça en tête.
La maison de la presse. Vous la voyez, c'est la première qui est en mauve.
D'accord.
Vous avez le bar de la main. Même pas, c'est celle-là, celle qui est en bleu clair, pardon.
Oui, celle qui est en bleu clair. Ouais. Ok. Ouais.
Les voix du Seigneur sont impénétrables autant que les avis de l'ABF, monsieur le
maire. Monsieur le maire, excusez-moi d'insister, mais sous quelle forme s'exprime cet avis de l'ABF ? Là, on a un avis écrit, confirmé ?
Non, bah, elle donne pas un avis écrit sur toutes les questions, mais,
non, mais celle-là, c'est une question importante.
On a eu plein de débats.
Excusez-moi, vous l'avez dit vous-même en réunion publique, vous étiez très très favorable à cette.
Il y a plein de choses, Monsieur Deripaire, dans lesquelles je suis favorable, et au bout du bout, c'est la BF qui a souvent le mot final hein, sur beaucoup de dossiers. Vous le savez bien, vous êtes à la commission Urba.
Allez-y.
Non, mais je ne voudrais surtout pas vous interrompre. Moi, je serais plutôt d'avis de laisser un Velux, quelque chose comme ça. Donc l'architecte des bâtiments de France a un avis assez arrêté. On a discuté, on a évalué toutes les différentes solutions. Et avec l'ensemble des acteurs ici, elle a fini par dire, bon, voilà, moi, je préconise cette solution-là. Voilà. Je peux passer outre. Après, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis moi, cette solution-là, je la trouve, effectivement, je préférais l'autre, mais celle-là ne me déplaît pas tout à fait. Et puis ce sera aussi moins cher.
20 000 euros, on l'a
calculé. Monsieur Deripaire, pour tout vous dire, à l'issue de la réunion publique, on a demandé très gentiment, avec insistance, aux bureaux d'études qui sont derrière nous, de nous proposer pour le lendemain matin, et ils l'ont fait, et je les en remercie encore, un plan variante qui reprenait ce qu'on est en train d'évoquer. Pourquoi ? Parce que il se trouve que le lendemain de la réunion publique, on rencontrait l'ABF pour un autre sujet. Et nous lui avons donc soumis. Voilà. Donc on a fait cette démarche, ça a été refusé. Vous demandez si on a des écrits, etc. À ce stade-là, on est sur des échanges itératifs avec l'ABF. L'avis formel et officiel sera fourni après, avec la démarche officielle de l'AVP, du dépôt de permis d'aménager, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il est de bon sens de faire prévalider les choses pour que le permis recueille l'aval officiel de l'ABF. Et aujourd'hui, on a un aval sur cette solution-là, mais pas sur les autres.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Donc, je vous propose de passer au vote pour ce projet, donc avec les coûts inhérents que vous avez vus dans le rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. J'espère que ce sera un beau projet. C'est évidemment au moment de la réalisation qu'on le saura tout à fait. Mais c'est vraiment, vous le savez, hein, le cœur de Carnac. Si le cœur de Carnac devait battre quelque part, je pense que ce serait sans doute sur cette place. Pardon ? Pourquoi ? Oui, monsieur Deripaire.
Ouais, monsieur le maire, je précisais que nous votons pour, mais on trouve ça vraiment très, très cher.
D'autant plus
qu'on est parti d'une estimation à 1,3 million et qu'on est arrivé à 2,3 millions. C'est-à-dire qu'on est 1 million au-dessus de l'estimation primitive.
Je suis d'accord avec vous. On passe à la présentation du dispositif de participation citoyenne de la Gendarmerie nationale, sur lequel nous serons donc invités à nous prononcer sur une adhésion de principe. On ne pouvait pas brancher l'ordinateur de la gendarmerie nationale sur le...
Non, mais les ordinateurs de la gendarmerie, c'est fantastique, ça ne marche pas.
Ils sont sécurisés ?
Oui, ça décale tout à chaque fois.
Merci, monsieur Servet, et bon week-end. Oui, monsieur Servet a donné pouvoir à monsieur Oudois pour le reste du conseil. Question, est-ce que dans des communes du Morbihan disposent déjà de ce dispositif? Et si oui, où? D'accord. Et c'est un peu tôt pour en tirer des bilans. Enfin,
Après, sur l'ensemble de la France, là où ça a été mis en œuvre, ça a apporté ses fruits au niveau de la baisse de la délinquance. Après, la baisse de la délinquance, elle n'est jamais due qu'à un seul élément. On peut dire la participation citoyenne contribue 100% à la baisse de la délinquance. Néanmoins, c'est l'accumulation de dispositifs qui permet à terme de faire diminuer les actes de délinquance.
Est-ce que vous avez une répartition des actes de délinquance en fonction des mois de l'année?
Je n'ai pas là, mais oui, je peux la sortir. Bah, après, on a une grosse partie de délinquance qui est l'été également. Néanmoins, on constate quand même beaucoup de cambriolages entre octobre et avril. Alors après, ils ne sont pas forcément constatés au moment où on les constate, puisque les gens, ils arrivent, ils viennent nous dire au mois de février, je me suis fait cambrioler, mais s'ils font 5 ans, ils ne sont pas chez eux. Mais c'est vrai que dans cette période qui est un peu creuse, on constate une hausse des cambriolages qu'on n'a pas forcément l'été, puisque les gens habitent dans leur maison l'été, donc les gens osent moins s'aventurer là-dessus.
Une typologie calendaire, en fait, de la délinquance. C'est-à-dire que, voilà, l'ébriété sur la voie publique, c'est sûr que c'est un peu plus en août et en juillet qu'en février. Et les cambriolages, évidemment, quand les gens ne sont pas là, donc...
Combien de vols vous avez en
cambriolage ? Et 36 cambriolages, c'est ça ?
Sur le cambriolage, même si c'est qu'un cambriolage, même s'il n'y a pas au final de préjudice physique ou de préjudice matériel ou financier, ça reste pour la personne un préjudice moral parce qu'on a quelqu'un qui est rentré chez nous.
Sur ces 36 cambriolages, il y en a un qui s'est produit avec violence, c'est-à-dire que les gens étaient là ou aucun? Non, parce que moi j'ai des amis sur la, enfin pour le coup sur la Côte d'Azur, où là, enfin, on se réveille, les gens se réveillent la nuit à 2h du matin avec un flingue sur la tempe, et là c'est le cambriolage. Ça, c'est en Bretagne, ça n'existe pas encore.
Ça peut exister, mais ici nous on l'a pas constaté. Après, on a plusieurs fois des gens qui rentrent chez d'autres personnes et au final qui sont mis en fuite parce que les personnes sont à l'instant T dans la maison.
D'accord.
Et en matière d'agression, viol et autres?
Le bourre-pif éméché, c'est quand même une spécialité estivale. Il y a d'autres commentaires sur ce dispositif? Bon, moi, je vous avouerai que je suis plutôt agnostique, mais si ça permet d'aller dans le bon sens, voilà. Je préfère que ce soit fait sous le contrôle de la gendarmerie, parce qu'il y a aussi d'autres dispositifs voilà, de citoyens vigilants, mais voilà, associatifs, je pense que c'est... Je suis plus favorable à ce dispositif parce qu'au moins il est encadré par des professionnels de la sécurité, par une autorité qui a
par l'État.
Par l'État donc, okay. Il y a d'autres commentaires?
Non, juste peut-être sur la nomination, le principe de nomination des référents de quartier, ces propositions, des volontaires.
C'est des volontaires. Hein? Ce sont des gens qui sont volontaires. Après, on n'est pas non plus obligé d'accepter tout le monde. Hein,
oui, voilà.
Si quelqu'un se prend volontaire et que vous avez connaissance que non, cette personne n'est pas de bonne confiance ou elle risque de prendre un peu trop de zèle au service de l'autorité.
Ouais.
Voilà. Après,
Monsieur de Ripper pour Penouette, vous êtes candidat ou non?
Et j'appelle ça un coup bomb.
Moi, je prends le bourre. Bon, ok. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on sera amené, si d'aventure le conseil municipal émet dans quelques instants un vote favorable, à voter le protocole qui sera signé entre la commune, le préfet et la gendarmerie.
Donc ça veut dire qu'il faut, il faut mettre en place tout ça. Et donc c'est M. Marc Albert qui serait l'élu référent au sein du conseil municipal sur cette... D'accord. Et donc c'est toi qui contracteras tous les candidats. Donc tu as bien retenu la candidature de M. De Ripper pour Penouette. Merci beaucoup.
Merci.
Donc qui serait opposé à ce qu'on mette en place ce dispositif sur Carnac? Qui s'abstient? T'abstiens? Et qui est pour? Donc le reste, j'imagine. Parfait. Donc le rapport est adopté. On accélère. Non, c'est pas mort. Une demi-heure, on peut le faire. Faut que j'appelle. Alors, le rapport numéro 6, là, je vous propose d'aller assez rapidement, suite au décès d'un conseiller communautaire qui s'est produit sur la commune d'Édic, et en raison de la censure par le conseil constitutionnel d'un certain nombre de dispositions qui étaient en vigueur au moment de la répartition des sièges des intercommunalités, c'est-à-dire avant les élections municipales de 2014, l'intercommunalité a été obligée donc de se prononcer sur le nombre de conseillers communautaires, et deux voies s'offraient à l'intercommunalité, soit de respecter hors accord local la loi, qui aurait donc attribué 47 conseillers communautaires à l'intercommunalité, ou alors, comme ça avait été le cas la dernière fois, de procéder à un accord local qui a recueilli la majorité absolue, je dirais même la majorité à l'unanimité lors de la dernière réunion du conseil communautaire. Et donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, et nous devons voter, l'ensemble des communes doivent voter cette délibération strictement dans la même rédaction que l'ensemble de toutes les communes. Donc ce rapport nous a été adressé par ACTA et nous propose donc cette nouvelle répartition qui donc permettra au conseil communautaire de disposer de 57 conseillers communautaires. Et vous le voyez dans cette répartition, un certain nombre de communes, puisque cette répartition s'est faite en fonction d'un certain nombre de critères que je ne vais pas rappeler, mais qui sont essentiellement la population municipale de chaque commune, eh bien, un certain nombre de communes ont perdu des délégués communautaires et d'autres en ont gagné. Donc la commune de Carnac fait partie de ceux qui gagnent un délégué supplémentaire, puisque nous aurons donc à partir de la rentrée, nous serons amenés à élire, ce conseil municipal sera amené à élire ce nouveau conseiller communautaire au mois de septembre. Nous aurons donc trois conseillers communautaires à partir du mois de septembre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques sur cet accord local, encore une fois, qui a été adopté à l'unanimité du conseil communautaire, Monsieur Drita?
Vous pouvez aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, de la délibération.
Bien sûr.
Fin, le tableau que vous avez à la fin de la délibération.
Oui.
Je pense qu'il faudrait le modifier, sinon la délibération risque d'être invalidée. Il n'est pas complet. Ah. Il manque les 5 dernières lignes.
Ça a été coupé. Merci, monsieur
Dalton. Ça risque de poser problème parce que je pense que ça doit aller chez le préfet, ça.
Oui, mais je pense pas que ce soit ça. Il faut le faire, vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas que ce serait une raison d'invalidité, mais en tout cas, c'est mieux de le faire. D'ailleurs, pourquoi il est après le projet de... Enfin, bref. OK, donc est-ce qu'on passe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Monsieur Lejean, très synthétique, la taxe de séjour 2019. Monsieur Lejean nous a promis d'être synthétique ce soir.
Donc c'est comme tous les ans à peu près à cette époque-ci. Je vous rappelle qu'il faut que ça passe en conseil municipal. Les montants de la taxe de séjour cette année, donc elles sont identiques à 2017, sauf que la loi a un petit peu changé pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, où avant c'était 0,20 par nuitée par personne, et qu'aujourd'hui c'est l'État impose soit un minimum de 1%, enfin une fourchette entre 1 et 5%, et donc nous avons choisi pour Carnac 5%, sachant que nous aurons beaucoup. Ça ne sera pas facile pour pouvoir maîtriser, effectivement, puisque là, on sera obligé d'appliquer un pourcentage du chiffre d'affaires et de la déclaration que fera la personne qui a effectivement hébergé du monde. Et là, un petit bonheur à la chance. Tandis qu'avant, au moins, on avait un nombre de personnes. C'était tant à la nuitée. Là, c'est au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, combien qu'on loue à telle époque de l'année, est-ce qu'on loue, on le dit, on ne le dit pas. Donc voilà.
Questions sur ce rapport ?
pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à un rapport... Merci d'éteindre. Monsieur Lejean, toujours sur... enfin, le toujours. L'année dernière, nous avions donc renoncé à refinancer notre dette avec la SFIL. Et comme monsieur Lejean est quelqu'un d'opiniâtre et que monsieur de Ripper, d'ailleurs, à l'époque, nous avait dit qu'on aurait peut-être dû saigner le premier accord. Monsieur Lejean a continué à entretenir des contacts fructueux avec la SFIL et on a un petit peu réfléchi et amélioré un petit peu l'accord. Et donc, on vous propose de refinancer donc ce prêt, non pas toxique, mais en tout cas dangereux dans certaines circonstances, structuré. Et donc, monsieur Lejean, je vais vous laisser. Comment ? Enfin, oui, parce que le taux d'intérêt qu'on a payé depuis le début ne peut pas être considéré comme toxique. Hein. Allons-y, donc, monsieur Lejean.
Le but, c'est effectivement de refinancer l'emprunt structuré de type E, comme il l'appelle, donc, qui était financé en 2008. Donc aujourd'hui, il nous reste 3 millions, après l'échéance du 1er décembre 2018, il nous restera 3 411 661 euros à payer sur 7 ans à 3,98. Et donc, le but, c'est de refinancer au même taux le même montant, ce qui nous permet d'absorber une partie de l'IRA. Il reste une autre partie de l'IRA à absorber. Comme on avait sollicité le fonds de soutien au niveau de la préfecture, nous avions eu donc un estimatif, un montant maximum de fonds de soutien de 130 000 euros. Et on en profite aussi pour refinancer les deux travaux qui ont été faits sur les offices du tourisme de la plage et du bourg, qui nous permet de baisser encore le solde de l'IRA. Et juste pour vous rappeler qu'au départ, cet emprunt avait été signé puisqu'il faisait, il permettait de faire une économie de 300 000 euros sur la durée par rapport à un emprunt classique traditionnel à taux fixe de l'époque. Je dis bien de l'époque. Et donc aujourd'hui, il y aurait un coût de sortie qui resterait à la charge de la mairie qui pourrait être au minimum de 40 000 euros et au maximum entre 60 000 euros en fonction des montants et des taux exacts qui seront au 1er décembre 2018.
Monsieur de Ripper.
Faire court.
Une première question. En ce qui concerne le montant de l'IRA, vous, à chaque fois, vous parlez de 650 000 environ, 450 000 environ. Pourquoi environ? Parce que je présume que les propositions qui vous ont été faites par la SFIL, elles sont nettes, claires et précises.
Non, mais je répète ce que me dit la SFIL. Hein,
ah oui. Non, mais je vous pose la question.
Parce que, si vous voulez, notre échéance est au 1er décembre de chaque année. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la photographie exacte de la situation.
Deuxième question dans la première proposition qui avait été faite. On avait une participation du fonds de soutien qui était à hauteur de 10,75% du montant de l'IRA, ce qui nous donnait quelque chose comme 110 000 euros de...
Ou 130 000, on est à 11...
Parce que oui, mais l'IRA à l'époque était de plus d'un million d'euros.
Parce qu'on était à un IRA à l'époque, donc c'est limité sur les emprunts structureux, on a un pourcentage avec un montant maximum. Le montant maximum, c'est 130 000 euros. Le pourcentage, c'est... plus près de 11 que de...
C'est 10,75. Oui, enfin bon, peut-être un peu plus.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Donc les 130 000 euros, on en est sûr.
Les 130 000 euros, ça sera quand on aura...
Enfin, quand on aura signé, on est sûr des 130 000 euros.
Voilà, mais de toute façon, on a fait la démarche tous les ans pour maintenir le fonds de soutien, parce que tous les ans, ils nous demandent si on le reporte. Donc systématiquement, on fait la demande, on le fait. Donc, si vous voulez, il existe, on est toujours dans le fonds de soutien. Maintenant, le montant exact, je ne l'aurai qu'au mois de décembre, début décembre.
Donc, le fait de refinancer avec un emprunt à taux fixe à 3,98, le différentiel de taux, puisqu'on pourrait obtenir beaucoup mieux, le différentiel de taux permet d'absorber une partie de l'IRA, 450 000. Ensuite, on a en effet un financement à hauteur de 130 000 qui vient du fonds de soutien. Je ne comprends pas bien pourquoi vous vouliez l'emprunt de 3 411 000 pour lequel je suis tout à fait d'accord, mais puisque je l'avais préconisé, mais pourquoi est-ce que vous vouliez ça à un nouvel emprunt de 650 000 euros sur 15 ans, avec un taux de 2,25, qui là aussi est surestimé. Parce que le taux de 2,25, à l'heure actuelle, sur 15 ans, on obtient un point de moins.
Non, un peu plus.
On a demandé... Alors, je vous cite mes sources.
Oui.
Hein, une banque qui
mutualiste.
Est...
Mutualiste.
Hein,
une banque mutualiste.
Par exemple. Non. On téléphone au service qui s'occupe des prêts aux collectivités locales. Et donc, on obtient un taux...
À 15, on a un peu plus. Mais à, ça, enfin, ça,
à, c'est aux alentours, okay. Voilà.
OK, pas de problème. Bon, non, allez, on va pas
donc,
tourner.
La question, c'est pourquoi est-ce que vous liez ces deux prêts et pourquoi ce taux surévalué?
Alors, ça permet de faire descendre encore l'IRA.
Donc, ça veut dire que, grâce à ce taux surévalué, vous absorbez une nouvelle partie de l'IRA.
Tout à fait. Hein,
c'est bien ça.
Tout à fait.
Mais... Le prêt que vous demandez sur le FIP, qui normalement est fléché Office de tourisme, il n'a strictement rien à voir avec le prêt de 3 411 000.
Non, hein, si vous voulez, la proposition qui a été faite par l'ASFIL, c'est voilà, monsieur Lejean, aujourd'hui, on est missionné par l'État pour pouvoir refinancer tous les emprunts toxiques et ainsi de suite. OK, pas de problème. Et derrière, aujourd'hui, l'ASFIL, c'est une nouvelle banque qui s'est adossée à la Banque Postale. Mmh. D'accord, puisque c'est la Banque Postale qui va sur les marchés chercher des fonds pour le biais de l'ASFIL, avec le soutien de l'État. On a deux métiers. On a un métier, le remplacement de Dexia pour éponger toutes les erreurs qui ont été faites par la Banque Dexia, donc avec le concours de l'État, les fonds de concours. Et de l'autre côté, on est aussi une banque et classique, traditionnelle, qui s'appuie sur la Banque Postale. Et si, effectivement, vous travaillez avec nous, ça nous permet de faire encore un geste supplémentaire. Donc, si vous voulez, ça s'est passé... Comme ça, on a dit pourquoi pas. On estimait que pour d'autres raisons, il fallait identifier et financer les travaux de l'Office du tourisme, puisque c'est fléché Office du tourisme. Et je vous rappelle que quand on fait un transfert, ça permet de transférer les recettes et les charges. Donc voilà l'une des raisons. Et donc ça permettait de faire d'une pierre deux coups.
D'accord.
Et donc je leur ai demandé de faire une proposition. Et c'est là qu'ils m'ont dit, on peut vous faire cette proposition-là et on peut aussi intégrer dedans, ce qui me semblait judicieux.
Mais au final... De toute façon, ce qu'on va gagner là, c'est-à-dire le différentiel de taux, en gros 60 000 euros, de toute façon, on le paye. C'est-à-dire, soit on le paye directement, soit on le paye directement en payant l'IRA, soit on le reporte sur les municipalités suivantes, c'est-à-dire qu'on va le payer avec les mensualités. On est d'accord sur le système. D'autre part, je trouve ça un peu pervers. Parce que vous dites, pour le justifier, vous dites... Peut-être qu'on va transmettre la compétence tourisme à CTA. Et donc, évidemment, on va leur transférer aussi les charges qui sont liées aux offices de tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on est en train d'emprunter à un taux qui est surévalué, et on se dit de toute façon, sans doute, que ce n'est pas nous qui allons payer, ça sera CTA. Et alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce système.
Alors, déjà, monsieur De Ripper.
C'est ce que vous avez écrit, monsieur le maire. C'est écrit.
Non, non.
C'est écrit et c'est ce qui va être voté. Je regrette. Je regrette vous justifier cet emprunt en disant que c'est dans la perspective de du transfert de la compétence tourisme à CTA.
Monsieur Deripper, on ne va pas encore jouer à « c'est moi qui est la plus grosse », parce que ça devient agaçant. Je vous dis aujourd'hui que je suis maire jusqu'à présent. Aux prochaines élections municipales, je ne serai peut-être pas maire. Donc voilà, donc. Peut-être que le prochain maire aura une autre vision que moi sur la compétence tourisme et qu'il souhaitera la transférer. Moi, je vous dis que pour l'instant, il est hors de question, tant que je suis maire, de transférer la compétence tourisme. Je ne suis pas engagé au-delà des prochaines municipales et donc je pense que le prochain maire doit pouvoir voilà, être totalement libre sur ces questions. Et donc, à partir du moment où d'autres communes l'ont fait, pas que nous, j'estime que c'est de mon devoir de lui laisser une totale liberté de choix dans ce domaine. Point final. Donc, je veux le répéter. Vous pouvez lire, c'est écrit. Il est hors de question de retransférer la compétence pour l'instant.
Oui, c'est ce que vous dites. Il n'empêche que c'est écrit. Et donc, ce que je demande, s'il vous plaît... Attendez, j'avais pris la parole. Je continue. Je vais simplement jusqu'au bout. Ce que je demande, c'est que les deux délibérations... Il y ait deux délibérations. Une première délibération qui porte sur l'emprunt qui est à refinancer et une deuxième délibération qui porte sur ce fameux emprunt concernant l'Office de tourisme.
C'est la suite qui nous a proposé. Je ne sais pas si c'est possible. Après, je voulais juste finir pour...
Mais c'est tout à fait possible, puisqu'on a deux possibilités pour payer le solde de l'IRA.
C'est peut-être possible, mais c'est non.
je voudrais juste rajouter quelque chose. Si c'était fait à 100% de l'esprit, dans ces cas-là, on aurait fait un emprunt sur 30 ans pour l'office du tourisme et pas sur 15.
Il y a d'autres remarques sur ce rapport ?
Oui, moi je fais la remarque suivante, c'est que quelque part, là quand vous nous avez présenté ce bordereau, en effet d'un transfert de compétences vers ACTA, finalement, vous nous aviez dit que vous ne feriez pas d'emprunt pour des investissements ou autres, vous ne feriez pas d'emprunt, finalement, vous constituez une trésorerie de 650 000 euros. D'autre part, je voudrais juste ajouter, quand on parle d'économiser 650 000 euros d'IRA, vous n'économisez rien du tout, puisqu'en fait, c'est votre taux qui absorbe les IRA. C'est-à-dire qu'on paye plus cher et la banque se sert de la même manière.
Très bien, c'est que l'année dernière, quand on a proposé à peu près le même dispositif, M. De Ripper était d'accord, alors que l'IRA était absorbé à peu près sous les mêmes mécanismes, et maintenant, vous n'êtes plus d'accord.
C'est pas que je ne suis pas d'accord. Je précise que quand on dit j'ai réussi à négocier 650 000 euros d'IRA, il n'y a pas de négociation. La banque se sert de la même manière, mais différemment. Je précisais les choses.
Est-ce que j'ai dit ça, Madame Le Gaulement ? Mais attendez, l'IRA, ça ne se négocie pas. Vous êtes assez bien.
Monsieur Lejean, on va arrêter là. Vous ne l'avez jamais dit une telle chose et je pense qu'on peut passer au vote. Donc, nous allons voter sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est bon, Madame Le Gaulement, vous avez pris la parole, c'est fini maintenant. Et donc, le reste, c'est des votes pour. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Monsieur Lejean, on passe à la concession des plages.
Tout à fait. Comme nous avons passé à la demande de l'État et nous avons passé en commission, l'État nous souhaite transférer les concessions des plages, des différentes plages de Carnac. Et donc la commune s'est portée, je ne sais plus trouver le terme, a trouvé ça que c'était utile et donc s'est portée, pas acquéreur, mais candidat. Voilà. Pour prendre la concession des plages. Donc de là, nous sommes rentrés dans une procédure avec effectivement la DDTM, nous avons pris un cabinet qui est le cabinet OTIS. Je vous passe pour faire court un petit peu tout ce qui est complexe. Juste, la concession des plages, c'est sur la partie qui se trouve sur la plage et à mi-marée. D'accord ? Et la règle est qu'on ne peut pas utiliser plus de 20% du linéaire, 20% de la surface. Aujourd'hui, ce qui est utilisé sur les concessions des plages, vous avez entre autres tous les clubs de plage, les tentes de plage et les différentes activités liées à une activité nautique et saisonnière. Et entre autres aussi le bar de plage, le Fischer, puisqu'aujourd'hui il est implanté sur du domaine public maritime. Donc on vous a présenté des cartes, je ne sais pas si on peut vous les représenter. Donc juste un petit rappel, on a identifié 6 plages, on va les regrouper en 5, puisque notre seconde, c'est les 5 plages. Donc, il y a Saint-Colomban. On va commencer par Saint-Colomban. Donc, sur Saint-Colomban, on est reparti un petit peu aussi sur l'historique qui existait dans le temps. Pardon ? On va faire dans l'autre sens. Est-ce que vous avez des questions sur l'implantation prévisionnelle qu'il peut y avoir sur les différentes plages ?
Est-ce que l'implantation est contractuelle ?
Qu'ils entendaient par contractuel.
C'est-à-dire, ça constitue un dossier qui va être soumis à la préfecture. Et donc, est-ce que ce plan est donc transmis à la préfecture ? Est-ce que les implantations qui figurent sur le plan sont contractuelles ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera obligé de les respecter ensuite ? C'est ça la question.
Alors, attention, si on met une activité qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui est prévue sur le plan, ce sera l'endroit qui est prévu. Si demain je veux pas mettre l'espace commercial pour Fun Synco là-bas pour gréer ses voiles à la demande des affaires maritimes, par exemple. S'il n'y a pas de demande, il n'y a rien du tout. Par contre, je ne pourrais pas le mettre à l'opposé de la plage.
D'accord.
Si c'est votre question.
Autre question, si sur le plan figure un club de plage, est-ce que je peux ensuite modifier l'activité qui est prévue ?
Il faut que j'ai l'autorisation des affaires maritimes. Il faut faire une demande. Ça peut, mais ce n'est pas prévu, mais ça peut être fait avec une demande justifiée. Si je veux remplacer le club de plage, par exemple, pour prendre un bar de plage, non. Si c'est votre question.
Par exemple, oui.
Mais je prends un extrême. Par contre, si c'est pour remplacer un club de plage par rapport à une ZAM, une zone d'aménagement municipal, ça sera possible, avec l'autorisation des affaires maritimes.
Alors, c'était une troisième question. Zone d'aménagement municipal, ça veut dire quoi ?
La zone, c'est de se réserver un espace sur le domaine public maritime pour pouvoir accueillir les jeunes. Entre autres, on avait pensé à tout ce qui était l'été, ce que fait Loïc, le centre de loisirs. Voilà, pour avoir un espace pour ces enfants-là.
Les AOT actuelles, il devait y en avoir 7, elles deviennent quoi ?
Les AOT actuelles, soit elles ont été signées annuellement, soit elles sont signées jusqu'à 2020. Et donc, elles tombent.
D'accord.
D'autres questions ?
Finalement, vous ne prévoyez pas de barre de plage ?
Non.
Vous avez déjà eu cette réponse, Madame Le Golban ?
Pardon ?
Vous non. avez déjà posé cette question, il me semble.
Ah non.
Non ?
Ah non, non.
D'accord, je crois.
On peut passer au vote.
Est-ce qu'il y a donc des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Très rapidement, le rapport de présentation du délégataire du Casino Circus de Carnac, Monsieur Lejean.
Comme tous les ans, le rapport est à votre disposition en mairie, donc je vais parfaire tout le rapport du délégataire du casino, puisque c'est quasiment le même tous les ans. Sachez que, quand même, pour 2017, je vous rappelle l'événement majeur qui est arrivé, c'était la modification des taux par rapport à 2016. Et même avec une modification des taux et une baisse des taux, je vous rappelle que le casino a réinvesti, le nouvel opérateur a réinvesti et qu'on a retrouvé une croissance à ce niveau-là.
Oui, Monsieur Lejean, il faut quand même préciser que le prélèvement communal, lui, il baisse, comme on l'avait prévu. Et si le prélèvement... Eh ben là, on est bien d'accord. Donc on avait dit que logiquement, à partir du moment où on baissait le taux, on allait baisser le prélèvement. Si le prélèvement augmente, le chiffre d'affaires du casino augmente, si le prélèvement augmente, global, c'est uniquement parce que l'État, lui, n'a pas baissé son taux, et donc, comme on bénéficie d'une partie du prélèvement de l'État, c'est pour ça que le prélèvement global augmente. Mais sinon, le prélèvement communal avec une augmentation de chiffre d'affaires baisse.
Mais c'est de Ripper. On serait resté à 15%, on aurait plus que...
Pascal, on a déjà eu ce débat à nombreuses reprises, on est sur la porte plantage du casino. Monsieur de Ripper, vous avez parfaitement raison. On vous a expliqué les raisons, l'environnement concurrentiel, les taux dans les autres communes. Le casino est un partenaire, c'est pas une vache qu'on trait pour son lait. Si un jour le casino, comme ça arrive dans d'autres communes, n'a pas la rentabilité, machin, bah, il n'y aura plus de casino et il n'y aura plus de prélèvement, il n'y aura plus rien. Donc, encore une fois, on ne va pas refaire ce débat, ça a été un choix. Effectivement, vous avez raison, en baissant le taux, on dégage des marges de manœuvre à l'opérateur et à l'investisseur, mais encore une fois, il est en concurrence avec Quiberon, avec Vannes, avec l'Armor Plage, et qu'on ne peut pas laisser notre partenaire dans une situation économique plus compliquée que celui des autres communes. On a déjà eu ce débat, on ne va pas le refaire à chaque fois. Oui, vous avez raison sur la diminution, hein. C'est mathématique, mais bon, voilà, une fois qu'on l'a dit, c'est bon.
Mais ça ne fait pas avancer les juridiques.
Donc on prend acte du rapport, il n'y a pas de vote ?
Puis-je m'exprimer aussi sur les investissements ?
Bien sûr.
Les investissements prévus, puisque, si je ne m'abuse, on avait prévu aussi une répartition du compte 471, c'est-à-dire du PAE. 310 000 pour la commune et 310 000 à utiliser par le casino pour le réaménagement de l'accès et de l'entrée du casino en l'embellissant, création d'un espace ludique extérieur, création d'un espace extérieur couvert et chauffé, en matérialisant une entrée extérieure pouvant servir aux manifestations, aux associations, aux expositions. Amélioration des espaces de stationnement, amélioration des espaces verts. De plus, vous avez pris la précaution, Monsieur Lejean, ensuite, dans l'avenant numéro 4, de préciser, en cas de non-réalisation de ces investissements avant le 31 octobre 2018, donc là, la date figure bien, et c'est dans 4 mois, le taux de prélèvement communal sera de 15% sur l'ensemble des produits à compter du 1er novembre 2016 pour tous les paliers ci-dessus, et ce, jusqu'à la fin de la DSP. Or, la plupart des investissements ne sont pas réalisés. La plupart demandent des permis de construire qui ne sont pas déposés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ? Déjà, vous êtes assez bien...
Vous proposez quoi, M. Dripin ?
Je ne sais pas, je vous pose la question. Que fait-on ? Il y a 300... Je vous demande ce que vous... Mais moi, je suis pas manette. Si vous voulez m'y mettre, il n'y a aucun problème.
Non,
hein.
Déjà, vous savez, vous êtes assez bien placé pour savoir qu'il y a eu des dossiers qui sont passés pour des travaux dans le casino. pour des raisons X, Y, la situation géographique avec les problématiques du BPRL et ainsi de suite, n'est pas aussi, c'est pas aussi simple pour pouvoir faire les travaux. Donc il est prévu, effectivement, que ça a pris du retard. C'était prévu pour que ce soit réalisé avant l'été 2018. Ça n'a pas pu être fait. Ce sera fait pour 2019. Et les travaux démarreront en 2018. Et normalement, vous êtes assez bien placé pour être au courant. J'ai du mal à vous suivre.
On est l'ensemble. Le casino va réaliser l'ensemble des travaux prévus et l'ensemble des investissements prévus.
Mais.
Non, mais je vous pose la question.
Oui, pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais attendez. Mais c'est moi qui l'ai écrit. Mais vous savez très bien, monsieur Dripper. Attendez, le but, c'était de faire avancer la machine. Oui, je l'ai écrit. Oui, ils sont dans les réalisations. Et il y a aussi des investissements à l'intérieur.
Monsieur Legendre, on va arrêter là parce qu'on est dans la posture. Et puis
on est
bien évidemment.
Dans la posture,
si monsieur Dripper était aux manettes, ce que je lui souhaite un jour, il ne poserait même pas ce genre de questions parce que je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il est dans la posture. Donc, on a pris acte de ce rapport financier et technique sur l'exercice 2017-2018 et je vous propose donc de passer au rapport suivant. Monsieur Marc Albert, sur la convention avec la thalassothérapie de Carnac.
On va faire une convention avec la thalassothérapie de Carnac parce qu'on va refaire le boulevard de la plage et le trait de côte et ils ont leur canalisation de pompage d'eau de mer qui passe à l'endroit où on va faire l'enrochement. Donc, il est obligé de faire une convention avec eux, partenariat avec le département, puisque le département est propriétaire de la voirie. Et ensuite, on redonnera la canalisation à la thalassothérapie qui s'en occupera. Et on leur demande une petite participation. Au début, ils ne voulaient pas. Ils ont participé à hauteur de 6 000 euros. Ils n'ont été pas obligés, puisque de toute façon, c'est nous qui avons déplacé pour la sécurisation de l'arrière-plage de Carnac, à la demande de l'État. Donc, voilà.
Il y a des questions sur ce rapport,
sur cette
convention. Est-ce qu'il y a des
abstentions? Unanimité, je vous remercie. Toujours M. Marc Albert,
les travaux de Volet d'habitation
des
Terrages
du temps attendu,
de Saint-André,
apprécié
qu'il y a. Traîné un petit peu. Ça fait une dizaine d'années, 15 ans qu'on en parle, donc je ne sais pas si c'est traîné ou tardé, mais on va peut-être essayer d'y arriver. Ouais. Voilà. Donc. On a fait une étude justement pour l'éclairage intérieur, je précise bien, l'éclairage intérieur de l'église Saint-Cornélie. On a vu ça avec le recteur, on a vu ça avec l'architecte bâtiment France à qui on a donné les plans. Et donc on a un montant aux alentours de 112 500 euros hors taxes. Et puis donc on demande des subventions entre 20 et 40%. Si quelqu'un compte des subventions, vous le dites. Merci.
En général, ce sont des rapports qui sont votés à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un est contre les demandes de subventions pour la réhabilitation de l'éclairage de l'église Saint-Cornélie? J'imagine que non. Unanimité. Je vous remercie. Toujours des demandes de subventions, restauration de 5 statues dans les chapelles. Toujours M. Marc Albert.
Donc c'est pareil, il y a pas mal de chapelles, de statues à refaire dans les chapelles. On en a 2 à côté à tous. On en a une à l'église, plus 2 autres. Donc on va demander des subventions entre 20 et 40% pour un montant de 20 000 euros TTC.
Tout le monde est pour ? Unanimité, je vous remercie. Effacement des réseaux. Je vais un peu trop vite. Autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une demande de déclaration préalable pour l'agrandissement des vestiaires du centre technique municipal. Monsieur Marc Albert.
Donc, on doit agrandir un petit peu les vestiaires du centre technique municipal, puisqu'elles sont à limite d'être aux normes. Et comme on a pas mal de femmes qui viennent travailler maintenant au centre technique municipal, donc j'ai des toilettes, des douches et des vestiaires séparés. Donc, on va rajouter un module qui fait à peu près 18 mètres carrés pour un montant de à peu près 17 000 euros. Donc, quand on aura un peu plus de doc là-dessus et d'organisation, on passera ça en compte travaux puisqu'on n'a pas pu le passer. On n'avait pas, mais il fallait le passer au conseil municipal pour pouvoir avancer dessus.
OK. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie, unanimité. Rapport numéro 15, effacement des réseaux de distribution d'énergie électrique, avenue de la Poste. J'imagine que c'est lié au projet que nous avons présenté tout à l'heure, M. Marc Albert.
Tout à fait, oui. Donc, on a refait le réseau de pluviale en haut de l'avenue de la Poste. Maintenant qu'on a un petit peu avancé et qu'on a vu le projet qu'on allait faire, Morbihan Énergie va pouvoir commencer à travailler et a déjà travaillé pour positionner les candélabres de façon à ce que les cheminements doux, vélos et piétons puissent être bien éclairés et la voirie aussi. Donc les travaux devraient se faire normalement dans l'automne, septembre-octobre. Et puis on devrait pouvoir travailler les travaux qu'on a vus tout à l'heure au courant du mois de janvier.
Bon, simplement, c'est à rajouter aux 2 millions dont on a parlé tout à l'heure.
Ah oui, les travaux de voirie, ce n'est pas, pas le même endroit que les travaux d'enfouissement de réseau. C'est comme quand on a fait Kermario. On avait les deux, on avait l'enfouissement de réseau et on avait les travaux de voirie.
Mais c'est lié au projet.
C'est lié au projet. On ne va pas faire le projet sans enfouir les réseaux et sans remettre des éclairages à l'aide et compagnie.
Nous passons au rapport numéro 16 et je confisque d'abord Belgique-Brésil à M. Chapelle puisque c'est lui qui intervient sur le prochain rapport.
Non, comme vous savez, régulièrement, nous sommes amenés à voter pour les cadres d'emploi qui sont soumis au régime indemnitaire qui a été instauré par l'arrêté du 20 mai 2014. Donc, à chaque fois qu'il y a un arrêté, nous devons nous prononcer. Cet arrêté défini à chaque et pris en fonction de chaque cadre d'emploi. Donc il s'agit là des emplois concernant les conservateurs généraux de bibliothèques, conservateurs de bibliothèques, bibliothécaires, bibliothèques assistants, magasiniers des bibliothèques, etc. Donc voilà, je pense qu'il en reste encore quelques-uns, peut-être un bon tiers des cadres d'emploi. Donc je vous invite à vous prononcer sur la mise en œuvre du RIFSEP pour ce cadre d'emploi.
J'imagine qu'il n'y a pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant est le déplacement du monument aux morts, on en a déjà parlé, je vais peut-être laisser M. Le Rosic dire un petit mot sur le sujet.
Ah non, Monsieur le maire, je vais sortir.
Ah bon, d'accord, ok. Oui. Non, non, mais avant de voter, avant de voter. Avant de voter, pour nous expliquer le pourquoi, puisque tu es à la fois président, mais aussi conseiller municipal, donc...
des présidents des différentes associations patriotiques. Et comme je suis président du comité d'entente des anciens combattants, eh bien, j'ai écrit au maire qui a accepté cette de faire la proposition au conseil municipal.
Oui, bien sûr, mais je t'autorise, Marc. On avait provisionné 30 000 euros parce que... en commission finance, parce qu'ils avaient peur de casser des carreaux. Moi, j'ai dit, vous ne cassez pas de carreaux. Et donc, le budget, c'est 7 500 euros. Et ils seront précautionneux. Je veux bien le déplacer, mais je ne veux pas non plus que ça coûte des 1000 et des 100. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ce rapport, je propose de passer au vote donc, sans M. Le Rosic. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à subvention exceptionnelle pour la participation au championnat sportif de France du Collège des Korrigans. Monsieur Lejean.
Oui, donc c'est suite pour accompagner les jeunes sportifs des Korrigans, comme on le fait chaque année. Le problème, c'est que cette demande n'arrive jamais au même moment que les demandes de subvention. Mais on les a fait chaque année pour les différentes écoles, que ce soit Saint-Michel ou les Korrigans, c'est d'autoriser 500 euros.
Pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. On passe au dernier rapport, la convention de partenariat entre le Centre des monuments nationaux. Alors, vous le savez, ce qui est Danos, après 3 éditions, dont une édition un petit peu décevante l'année dernière, parce que, bon, je pense qu'on était arrivé un peu au bout du concept. Comment ? Victime un peu de notre succès, parce que, bon, voilà, la commune et Paysage de Mégalith ne sont pas des organisateurs professionnels de spectacles. Et donc, suite à la dernière édition, et après réflexion avec le Centre des monuments nationaux, qui a souhaité... prolonger cette initiative et pour des raisons qui tiennent à la fois, je dirais, au succès populaire, parce qu'on avait beaucoup trop de monde, les contraintes de sécurité, le fait que c'était un spectacle gratuit et donc il fallait canaliser et gérer des flots de population très très importantes. Mais devant le succès de la manifestation, eh bien, le Centre des Monuments Nationaux nous a proposé de reprendre le portage de cette manifestation, qui est donc aujourd'hui essentiellement portée par CMN, puis dans un deuxième temps par la commune, mais également par Paysage de Mégalith, puisque vous le verrez, ce Skedanos 2018 soit un petit peu différent. Donc on passe à un spectacle payant avec un accueil et un village Skedanos qui se tiendra sur la place du marché et un dispositif de transport des spectateurs vers le site. Et donc cette fois-ci, puisque de toute façon je pense que la préfecture ne nous aurait pas laissé continuer, uniquement les gens qui seront titulaires d'un billet à 5 euros et qui l'auront acheté, soit avant, soit le soir même, pourront accéder au site mégalithique pour éviter effectivement des problèmes de gestion et de sécurité sur lesquels on était effectivement limite. Et je remercie encore
les bénévoles, et Mme Rouet notamment, qui a beaucoup travaillé lors des trois dernières éditions. Mais je pense qu'on était un petit peu totalement au taquet en termes d'organisation, et ça n'aurait pas été raisonnable de continuer comme ça. Donc on vous propose donc une convention de partenariat pour l'organisation de Skedanos 2018, et de participer financièrement à hauteur de 25 000 euros, et de prendre en charge des dépenses liées à cet événement à hauteur de 15 000 euros. Je crois qu'on a eu des retombées... international, hein, suite au, en tout cas aux trois premières manifestations. CMN investit assez massivement dans le nouveau spectacle. On va avoir cette fois-ci non pas des étudiants en école d'architecture, mais une vraie société, enfin des vrais professionnels des sons et lumières. Et donc j'attends avec impatience la première édition 2018 qui aura lieu, je crois, la semaine du 20 au 28 juillet. Des questions?
Les 15 000 euros de dépenses sont liés aux frais indirects qui jusqu'ici n'apparaissaient nulle part, ou sont liés aux frais qui sont induits par le fait que le spectacle devient payant et que l'organisation n'est pas la même?
Un petit peu des deux. Juste pour reprendre ce qu'a dit M. le maire, pour vous remettre bien, il y a un partenariat qui est le CMN-mairie. Et la mairie, après, s'appuie sur Paysage de Mégalithes et l'Office du tourisme. Pour la billetterie. Le CMN s'occupe de tout ce qui se passe sur le site. Donc, si vous voulez, la mairie a en charge tout ce qui est en amont, avec Paysage de Mégalithes pour la partie village Skedanos, et la mairie, tout ce qui est la logistique, sécurité à côté. Donc, il y a 25 000 euros qui est sur le côté artistique avec accord du CMN, et les 15 000 euros qui est sur le côté facturation directe pour tout ce qui est sécurité. Pour répondre clairement à votre question.
Le spectacle commence à quelle heure le soir? Donc c'est vers...
22h30. Enfin, après...
22h30. Donc ça veut dire qu'on fera des rotations de petits trains à partir de 22h jusqu'à 22h30, c'est bien ça?
Non.
Il y a
quatre petits trains mis à disposition. D'accord. Chaque petit train prend 170 personnes, ce qui fait 280 personnes. C'est une jauge. Et après, ça tourne continuellement jusqu'à minuit. Et avec une possibilité, il y a plusieurs représentations, si vous voulez. Mais il y a possibilité aussi de prendre les représentations en cours, puisque ce sont des boucles. Donc les petits trains aussi tournent en boucle. Le but, c'était de délocaliser toute la problématique sécurité, enregistrement, billetterie de dernière minute sur par rapport au parking du Ménèque, donc de le mettre effectivement sur le parking Saint-Fiacre, et aussi de pouvoir présenter un village de Skedanos pour pouvoir présenter la démarche à l'UNESCO.
Donc, quelque part, vous prévoyez à peu près 1200, 1500 personnes par spectacle chaque soir, quoi.
Il y a quatre spectacles, on est à une jauge de 1960 personnes par spectacle potentiel.
Donc, 2000 personnes, c'est-à-dire ouais. Multiplié par quatre soirs, 8000 personnes.
Tout à fait.
Donc, 110 000 euros pour 8000 personnes.
Si vous voulez.
D'accord.
Moi, la quote-part des personnes.
Est-ce que le prix des entrées permet d'équilibrer?
Non, je viens de calculer.
Je demande.
J'ai calculé.
Donc ça ne permet pas.
Allez.
On est en fin de séance, monsieur Jean.
Voilà, il fait un peu, c'était de l'humour cette fois-ci. Alors, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Le Golvan, est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, parfait. Donc le reste, c'est positif. Je vous remercie. Bon week-end et bon Belgique-Brésil. On n'a loupé aucun but pour l'instant.
Je peux juste poser une question, monsieur Lejean.
Allez-y.
Au sujet de la en commission, ce qui concernait le bar de plage, vous nous aviez dit qu'il était déplacé, qu'il ne restait pas à l'endroit où il était, légèrement. Mais je n'ai pas, pas réussi à le retrouver sur le plan.
Vous n'avez pas réussi à le retrouver sur le plan?
Non.
C'est dommage.
Non, mais il a été oublié.
Non, il n'a pas été oublié. Ah bon? Il n'a pas lieu d'apparaître sur le plan puisqu'il n'est plus sur le domaine public maritime.
D'accord, ok. D'accord.
Non, je vais être désagréable, je suis désolé. Juste écoutez, il n'est plus sur le domaine public maritime.
Mais sur le domaine...
Voilà, municipal. Aujourd'hui, il est sur le domaine public maritime. Oui, vous m'avez posé la question tout à l'heure, s'il y avait des barres de plage.